Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à vous si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir avec le journal dans quelques secondes. 19h15, la carte blanche de l'économiste Nicolas Bouzou. Le bout du tunnel est proche avec la vaccination, nous dira-t-il, ça s'accélère. 19h20, le Club des idées, grand débat ce soir sur l'implication de ces nouvelles mesures pour notre quotidien qu'on attend du président de la République, en entreprise, pour les familles, pour les élèves, pour tous les Français. Fermer l'école si c'est annoncé, d'accord, mais pour quel impact sanitaire réel? On en parlera avec nos invités jusqu'à 20h. Et l'allocution du président de la République que l'on suivra évidemment ensemble avant le débrief juste derrière et nos invités jusqu'à 21h, édition spéciale donc ce soir dans Europe Soir. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. 19h, bienvenue à vous à l'écoute d'Europe 1.
Ils appréhendent, ils n'ont pas envie de plus voir les copains et puis de plus travailler en fait. Et ils vont perdre ce repère-là, donc c'est de l'inquiétude pour eux et ça va être des journées longues.
Dans une heure maintenant, Emmanuel Macron prend la parole. Que va-t-il annoncer? L'hypothèse d'une fermeture des écoles semble tenir la corde et elle inquiète aussi bien les parents que les enfants.
Des annonces qui auront une portée nationale, elles devraient concerner l'ensemble du pays.
Le président devrait aussi annoncer une restriction de nos déplacements.
Dans le Pas-de-Calais, sans attendre ces annonces, on s'organise avec aujourd'hui une distribution d'ordinateurs pour les élèves les plus défavorisés.
Parallèlement, la campagne de vaccination devrait s'accélérer. Au Stade de France, en tout cas, tout est prêt pour accueillir des milliers de personnes dès mardi prochain.
Au sommaire également, la cour d'appel qui donne raison à Sandra Müller, la journaliste à l'origine de Balance ton porc.
Aux États-Unis, le plan à 2000 milliards de dollars de Joe Biden. Le président américain voit grand, très grand, pour rénover les infrastructures de son pays. Et puis Bosnie-France, ce soir, pour les Bleus du foot, objectif évacuer les doutes avant l'Euro.
La météo avec Anissa Haddadi, une légère baisse des températures attendue demain dans le Nord-Ouest.
Oui, c'est à cause du vent, le vent de nord-est qui souffle, aussi appelé la bise. Il va souffler sur les côtes de la Manche. Là, les températures vont un peu baisser, mais partout ailleurs, je vous rassure, demain, c'est encore une journée estivale avec du grand soleil et beaucoup de douceur.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et dans moins d'une heure, donc, on sera fixé sur le sort que nous réserve Emmanuel Macron. Le président prend de nouveau la parole face à l'urgence sanitaire. Et en général, quand c'est le chef de l'État qui s'exprime, ça n'est pas pour annoncer de bonnes nouvelles.
Oui, les derniers arbitrages ont été rendus cet après-midi. Vu les chiffres, il devenait de plus en plus difficile d'opter pour un statu quo. Les médecins, notamment, poussent l'exécutif à agir. Jean-Rémy Baudot, est-ce que vous pouvez nous confirmer que le président devrait annoncer des mesures concernant l'école?
Oui, fermer les écoles, limiter les brassages, réduire la bulle sociale, forcer au télétravail. Voilà l'enjeu de ce qui devrait être annoncé ce soir. Et pendant les 4 prochaines semaines, l'école n'accueillera donc plus d'élèves, a priori une semaine d'enseignement à distance, puis 3 semaines de vacances pour tous sur l'ensemble du territoire. Une fermeture qui devrait permettre de focaliser aussi la vaccination sur les enseignants. L'école, on le sait, hein, c'est un point délicat. La France s'est longtemps enorgueillie de ne pas restreindre l'enseignement, une mesure d'égalité sociale. Mais le Premier ministre l'a confirmé il y a quelques instants à ses ministres. L'école, je cite, va être fortement concernée.
L'école donc, et puis il faut aussi s'attendre, Jean-Rémy, à des restrictions sur nos déplacements.
Limitation des déplacements, un confinement élargi à l'ensemble du territoire. Après le week-end de Pâques, il y aura donc des contrôles dans tout le pays, à chaque département, pour éviter que les Français ne se déplacent. La règle des 10 km actuellement valable dans les 19 départements confinés, eh bien cette règle, elle sera appliquée sur tout le pays. Interdiction de voyager, sauf motif impérieux ou professionnel. Tout ça, c'est à partir de lundi, car après le week-end de Pâques, l'exécutif consent l'exécutif consent à une certaine tolérance. Selon nos informations, il sera possible de quitter son domicile pour aller se confiner dans un autre point du territoire. Comme me le confie un ministre cet après-midi, ça participera à l'acceptation des mesures.
Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Vers une fermeture des écoles donc, qui de fait obligerait les parents à télétravailler, en tout cas ceux qui ont un métier où c'est possible. Télétravailler avec un enfant qui aura des cours en distanciel ou qui sera en vacances, dans les deux cas c'est très compliqué. Surtout qu'aujourd'hui on le sait, on a l'expérience du premier confinement. Difficile à vivre pour les parents mais aussi pour les enfants, comme le confirme cette maman, Émilie.
De l'inquiétude. Notre fille ce matin nous a dit « je ne veux pas en parler aujourd'hui, je sais que le président parle ce soir, mais on n'en parle pas, on verra ». Donc je pense que voilà, ils appréhendent, ils n'ont pas envie de se retrouver enfermés à la maison, de plus voir les copains et puis de plus travailler en fait, d'avoir ce rythme. Parce que la vie est déjà perturbée depuis un an, mais au moins l'école c'est un rythme et un repère. Et ils vont perdre ce repère-là, donc je pense que c'est de l'inquiétude pour eux et ça va être des journées longues.
Comment vous allez leur dire ?
On va voir demain matin peut-être. De toute façon, les instituteurs ont commencé à les préparer, à faire transférer des classeurs pour être prêts. Donc voilà, ils l'anticipent un peu. Donc on va leur confirmer si ça doit se faire ou pas.
Émilie, qui comme sa fille, redoute donc les annonces de ce soir. Elle était au micro européen de Jean-Sébastien Soldaini.
Dans le Pas-de-Calais, sans attendre ces mesures et cette possible fermeture d'école, une grande distribution d'ordinateurs a eu lieu ce matin à destination des enfants de familles précaires.
Des ordis qui seront bien utiles en effet, car ce que redoutent par-dessus tout les familles et les associations, ce sont les risques de décrochage scolaire, en particulier dans ces cités défavorisées. Reportage de Lionel Gougelot.
Donc là, c'est un ordinateur...
Animateur de l'association de prévention Avenir des Cités, Sadek Deguima présente à chaque famille l'ordinateur qui va permettre de garder le contact avec le collège.
Ce matériel, on le met à disposition gratuitement pour éviter justement la fracture numérique et le décrochage scolaire.
Ben, merci beaucoup.
En tout cas, faites-en bon usage.
Un équipement qui tombe à pic à quelques heures de l'intervention d'Emmanuel Macron.
On ne sait pas ce qui va être annoncé, mais de toute façon, avec le nouveau protocole, les fermetures de classe, etc., y a de plus en plus d'enfants qui vont se retrouver à la maison. Et quand on n'a pas d'ordinateur à la maison, ça peut être très compliqué.
Et Laïla en sait quelque chose, elle qui a vu son fils Naïm décrocher complètement après le premier confinement.
La moyenne, elle a baissé. Par rapport à la rentrée, il est passé de 13 à 7 de moyenne, même en travaillant.
Alors avec cet ordinateur, Naïm ne sera plus isolé.
Moi, si les écoles y ferment, on a un ordinateur pour faire nos devoirs et pour rester en ligne.
Même si l'adolescent est bien conscient des insuffisances de cette école à distance.
Ça sera plus dur parce qu'avec nos profs, c'est plus facile d'écouter que sur un ordinateur. On est chez nous, on doit apprendre et les profs, ils peuvent pas tout nous expliquer comme à l'école. Et puis, ils ont moins de temps à nous expliquer qu'en cours.
Ces derniers jours, 120 ordinateurs ont été distribués à des familles modestes de 3 communes du secteur. Alors, à Salomine, Lionel Gougelot, Europe 1.
L'exécutif, on le disait, compte plus que jamais sur la vaccination qui devrait être encore accélérée dans les prochains jours. Mardi prochain, par exemple, elle va débuter au Stade de France. C'est en Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus touchés de France par la propagation du virus. Jean-Gabriel Bourgeois, vous avez assisté aux derniers préparatifs.
Oui, et je préfère d'abord vous prévenir, on ne pourra pas se faire vacciner sur la pelouse ou dans les vestiaires du stade, non, mais deux salles ont été aménagées sous les gradins pour accueillir les patients. Une quarantaine de boxes de vaccination installées dans des salons de réception, explique Asdi Nayad, délégué aux grands événements à la ville de Saint-Denis.
D'habitude, cet endroit est un espace pour les partenaires et les VIP du rugby, avec un lieu de convivialité très important, avec une autre forme de convivialité qu'on est en train d'installer, puisqu'on va vacciner, j'espère, plusieurs milliers de personnes ici et pourront retrouver de la convivialité. Donc finalement, ce lieu-là, il n'est pas détourné de son objet principal.
Alors l'objectif de ce méga-centre, c'est de vacciner 6 jours sur 7, 10 000 patients par semaine. La moitié des créneaux seront réservés aux habitants de la Seine-Saint-Denis. Alexandra Boutelier, la directrice générale du Stade de France, se tient même prête à une montée en puissance.
Probablement à doubler, le cas échéant, à tripler les niveaux de vaccination, si cela, un, s'avérait nécessaire, et deux, évidemment, si les approvisionnements de vaccins, comme cela est anticipé, s'intensifiaient beaucoup au cours de l'été.
Car les portes de ce vaccinodrome vont s'ouvrir mardi prochain pour au moins 6 mois et dès vendredi, on pourra prendre rendez-vous sur Doctolib ou via une plateforme téléphonique aménagée dans un troisième espace à l'intérieur du stade. 50 jeunes, étudiants ou chômeurs ont été recrutés pour répondre au téléphone.
Le reportage Jean-Gabriel Bourgeois au Stade de France. Et puis à propos de vaccination, les États-Unis annoncent que le vaccin Pfizer-BioNTech est efficace à 100% chez les 12-15 ans selon les essais de phase 3 qui ont été menés.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal. Elle est à l'origine du mouvement Balance ton porc. La journaliste Sandra Muller vient de remporter une victoire, Isabelle.
Oui, elle a été poursuivie en diffamation par Éric Brion, mais la cour d'appel vient donc d'infirmer le jugement qui avait été rendu en septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, Marion Dubreuil.
Oui, d'abord parce que les juges estiment que Sandra Muller est de bonne foi. En clair, elle n'a pas menti. Éric Brion lui-même avait reconnu avoir tenu des propos déplacés à son égard, même si cela ne relève pas du délit de harcèlement sexuel. Ensuite, c'est le plus important, la Cour d'appel de Paris considère que ce tweet s'inscrit dans un débat d'intérêt général sur la libération de la parole des femmes. En pleine affaire Weinstein, il a suscité une déferlante de témoignages en France. En un an seulement, 930 000 tweets ont repris le hashtag « Balance ton porc » de Sandra Muller.
Le sujet n'était pas Éric Brion, mais le sujet était le problème des comportements, des paroles sexistes, des agressions verbales. Enfin, une parole sexiste n'est pas tolérable. C'est tout. Ça va pas pour autant entraîner de la délation, une chasse aux sorcières contre les hommes, tout ça c'est faux. Je pense qu'au contraire, on remet en équilibre un débat qui aurait existé depuis toujours. Ce qui est important, c'est les victimes qui vont peut-être se sentir un peu entendues, comprises et puis qui vont peut-être elles aussi pouvoir obtenir justice.
L'avocate d'Éric Brion estime, elle, que cette décision pourrait avoir des dérives en instaurant un permis de diffamer. L'ex-patron d'Equidia n'a pas encore décidé s'il allait se pourvoir en cassation.
Merci Marion Dubreuil du service police-justice. justice d'Europe 1. Une victoire également pour Cédric Herrou, le militant, symbole de l'aide aux migrants en France, qui est définitivement relaxé par la Cour de cassation. Il avait été condamné à 3 reprises pour avoir convoyé des migrants depuis la frontière italienne. Alexei Navalny annonce qu'il débute une grève de la faim. L'opposant russe, incarcéré dans une colonie pénitentiaire, il dénonce l'absence d'accès aux soins et une torture par privation de sommeil.
À l'étranger encore, on part maintenant aux États-Unis où Joe Biden doit présenter ce soir à Pittsburgh un plan de 2000 milliards de dollars pour rebâtir les infrastructures américaines.
Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant sur place. Un budget pharaonique donc et un plan très ambitieux.
Oui, une somme répartie sur 8 ans pour répondre au programme de Joe Biden, Build Back Better, mieux reconstruire. Alors ça commence par moderniser des infrastructures vieillissantes, 32 000 km de route, 10 000 ponts. Second objectif, répondre à l'urgence du changement climatique. L'accent sera mis sur la rénovation énergétique de millions de bâtiments, des incitations à l'achat de véhicules électriques ou encore la reconversion des travailleurs des mines de charbon. La Maison-Blanche promet ainsi la création de millions d'emplois, notamment pour la classe moyenne américaine, la colonne vertébrale de l'Amérique, selon Joe Biden. 2 000 milliards de dollars, des investissements de l'État fédéral jamais vus depuis les années 60. Alors comment financer un tel programme? Eh bien le président va proposer une hausse de l'impôt sur les sociétés de 21 à 28%, augmentation des taxes également pour les Américains les plus riches, des mesures qui sont déjà critiquées par le patronat et les républicains. Selon eux, ces hausses d'impôts feraient perdre de la compétitivité aux États-Unis et menaceraient la reprise de l'économie américaine après une année de pandémie.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. La situation en Birmanie, au cœur d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui, alors que la junte poursuit sa répression meurtrière.
L'ultime dessin de Plantu ce soir dans le journal Le Monde.
Oui, on y voit Emmanuel Macron assailli par les discours des soignants, se demandant ce qu'il va bien pouvoir dire aux Français ce soir. Plantu, dessinateur historique du Monde, hein, et le hasard fait qu'un autre caricaturiste tire lui aussi sa révérence aujourd'hui. Willem quitte Libération. Et puis le foot, après avoir fait le job, comme on dit, sans plus, hein, au Kazakhstan, l'équipe de France joue contre la Bosnie ce soir à Sarajevo, match de qualification pour la Coupe du Monde 2022.
Cyril de la Morinerie, une victoire serait clairement de bon augure ce soir.
Oui, un succès permettrait aux Bleus de conforter leur place de leader du groupe et donc de se rapprocher de la qualification pour la Coupe du Monde, puisque désormais le tenant du titre n'est plus automatiquement qualifié pour l'édition suivante. L'occasion aussi d'enregistrer une 8e victoire à l'extérieur de suite, ce qui serait une première dans l'histoire de l'équipe de France. Après un long déplacement en Asie centrale, il y a bien sûr de la fatigue. Alors pour éviter une mauvaise surprise, le capitaine Hugo Lloris demande à ses coéquipiers d'être vigilants dès les premières minutes du match.
Le plus important, ce sera de répondre présent mentalement. Après, les jambes vont suivre. Mais à la différence des Bosniens qui ont eu une semaine un peu moins chargée que la nôtre, ils risquent de démarrer fort. Donc à nous d'être prêts dès les premières minutes du jeu, à faire les efforts et bien rentrer dans le match.
De nouveau, Didier Deschamps devrait effectuer une grande rotation. La majorité des titulaires habituels devraient retrouver leur place, comme la défense championne du monde. Hugo Lloris va d'ailleurs rejoindre Thierry Henry et devenir le deuxième joueur ex-aequo le plus capé de l'histoire des Bleus, avec 123 sélections.
Et on suivra ce match en fil rouge, les temps forts en tout cas de cette rencontre sur Europe 1, Cyril de la Morinerie.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure d'ailleurs pour le débrief après l'allocution du chef de l'État à partir de 20h30. Un coup d'œil à la météo avec Anissa Nadi qui nous a retrouvés. Encore un soleil très très généreux demain Anissa, après c'est une autre histoire.
Voilà, alors demain, dès le début de la journée, nous aurons du grand et beau soleil sur quasiment tout le pays. Sur la pointe bretonne et le golfe du Lion, là nous avons des entrées maritimes, vous avez l'habitude dans ces régions. Des entrées maritimes qui vont vous apporter quelques petits nuages. Partout ailleurs, c'est grand, beau, franc soleil dans un ciel bleu azur. En fait, c'est dans le nord-ouest et plus particulièrement sur les côtes de la Manche que l'on va sentir un petit peu le changement qui s'amorce demain avec l'arrivée de la bise, ce vent de nord-est qui va rafraîchir l'atmosphère. Les températures, 3 degrés à Charleville-Mézières demain matin, 5 à Nîmes-et-Blois, 7 degrés à Brest et Belfort, 9 à Lille, 11 déjà demain matin pour Bordeaux et Paris et 13 à Biarritz. Au meilleur de la journée, il fait un petit peu plus frais dans le nord-ouest avec 16 degrés à Cherbourg, 19 à Nice, 21 à Marseille et Caen, 25 degrés pour Strasbourg et Lyon, 26 encore demain pour Paris et 28 la maximale à Tours.
J'aime quand vous citez ma ville de cœur, Blois, évidemment. Merci Anissa, on vous retrouve demain à partir de 18h. Vous restez avec nous 19h15 dans quelques secondes. Le grand débat sur les mesures attendues ce soir avant l'allocution du chef de l'État. D'abord la carte blanche, signée comme chaque mercredi de l'économiste Nicolas Bouzou.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes un peu, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Nicolas Bouzou.
Bonsoir.
Alors le président de la République va a priori nous annoncer une mauvaise nouvelle tout à l'heure dans 45 minutes maintenant. Mais vous, Nicolas Bouzou, vous avez de bonnes nouvelles pour nous.
Oui, alors ce sont de bonnes nouvelles. Ce sont des chiffres, notamment des résultats sur les vaccins. Maintenant que des pays comme Israël ont vacciné plus de la moitié de leur population, on a ce que l'on appelle des données en vie réelle, c'est-à-dire qu'on voit réellement ce qui se passe. Eh bien, la très bonne nouvelle, c'est que ça marche. Les taux de contamination en Israël, au Royaume-Uni, dans les États américains qui vaccinent le plus, sont bas. Mais surtout, ce que l'on a appris cette semaine, oui, c'est que les vaccins ARN messagers, notamment Pfizer-BioNTech, qui est le vaccin qu'on utilise le plus en France, eh bien, ces vaccins, ils empêchent les transmissions. 80% des transmissions empêchées après la première dose, 90% des transmissions empêchées après la deuxième dose. Et puis, l'excellente nouvelle pour la France, où on a une campagne vaccinale qui est un peu lente depuis le mois de décembre, c'est le fait que les vaccins arrivent. Ils arrivent massivement. On devrait avoir disposé en tout, en cumul, de vaccins, 25 millions de doses à la fin du mois d'avril et de 50 millions de doses fin mai. Le vaccin Pfizer-BioNTech arrive vraiment en quantité. On va avoir de nouveaux vaccins comme le vaccin Johnson & Johnson. Ça, c'est une excellente nouvelle.
Bien, enfin, on a envie de dire, Nicolas Bouzou, pour l'arrivée massive des vaccins.
Absolument.
Donc, ça y est, on voit la sortie de crise, elle est en vue ?
Oui, alors, elle est en vue, mais il faut aller maintenant très, très vite sur la vaccination. À partir du moment où on va disposer de doses, l'enjeu, c'est de vacciner le plus grand nombre de personnes tous les jours. Alors j'ai fait quelques calculs.
Oui.
Ce que montre l'exemple israélien, c'est qu'on peut tout rouvrir, les restaurants, les salles de spectacle, les salles de sport, quand on a vacciné à peu près 60% de la population. En France, on a déjà injecté 8 millions de doses. Un peu moins de 3 millions de personnes sont complètement vaccinées avec deux doses. C'est quand même pas énorme. Il reste à peu près 35 millions de personnes à vacciner. Si on veut rouvrir l'économie complètement cet été...
On est loin des 60%.
On est très loin des 60%. Si on veut rouvrir l'économie cet été, c'est quand même ça l'enjeu, c'est pouvoir retourner au restaurant, pouvoir retourner au spectacle et puis surtout permettre à ces gens-là de vivre à nouveau de leur travail. C'est possible, mais il faut que l'on vaccine dès qu'on aura ces vaccins, c'est-à-dire d'ici 15 jours, 3 semaines, entre 400 et 500 000 personnes par jour. On est à peu près à 250 000 aujourd'hui, oui, c'est beaucoup. Il faut doubler, c'est le prix de la reprise économique cet été. On doit pouvoir y arriver. Les Américains font aujourd'hui 1% de leur population chaque jour, plusieurs millions de personnes. Alors, on n'est pas les États-Unis, mais je trouve que voilà, c'est un objectif absolument fantastique pour notre pays. Si on arrive à faire ça, si le ministère de la Santé arrive à s'organiser pour ça, cet été, en principe, on respire.
Bien, bonne nouvelle. Et on mise notamment pour cela sur les fameux vaccinodromes qui
absolument
vont permettre de vacciner des milliers de gens chaque jour en France pour atteindre cet objectif des 500 000 personnes vaccinées en France. Merci,
Merci.
Nicolas Bouzou.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h20, passé de 1 minute, on est maintenant à moins de 40 minutes de l'allocation donc du président, l'allocution du président de la République, Emmanuel Macron, qui doit dévoiler, vous le savez, de nouvelles mesures de restriction, fermeture ou non des écoles, reconfinement national, interdiction des voyages entre régions. On va suivre évidemment tout cela ensemble. Édition spéciale d'Europe Soir avec nos invités. On en parle donc avec Rodrigo Arenas. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coprésident de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves. On en parle également avec Benoît Serre qui est avec nous, vice-président de l'Association nationale des DRH. Bonsoir Benoît.
Bonsoir.
Bonsoir Jean Numénil, vous êtes secrétaire général de la CPME qui représente les petites et moyennes entreprises. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
On en parle également avec le professeur Bertrand Guidé, chef du service de réanimation et de médecine intensive à l'hôpital Saint-Antoine. Bonsoir professeur. Et avec nos experts, Louis Dragnel notamment, chef adjoint du service politique d'Europe 1.
Bonsoir,
je me tourne
Julien
vers vous d'abord, Louis, pour commencer. Est-ce que vous avez des informations confirmées à ce stade à nous révéler ?
Alors pour l'instant, ce que vous venez d'évoquer, c'est vrai, ça correspond vraiment aux pistes privilégiées par l'exécutif. C'est des informations que nous, en tout cas, on a vérifiées à la fois auprès de l'Élysée, Matignon et puis plusieurs ministères. Donc, sauf coup de théâtre, en tout cas, c'est ce qui probablement devrait être annoncé dans moins d'une heure par Emmanuel Macron. Et je voulais simplement insister sur une toute petite chose.
Oui.
C'est que comment est-ce que le gouvernement, comment l'exécutif est parvenu à tomber un peu d'accord sur ces mesures. En fait, il y avait trois éléments dans l'équation. C'était d'abord les mesures sanitaires nécessaires et donc qui s'imposaient. Le deuxième paramètre, c'était l'acceptation sociale, l'acceptabilité, oui, des gens. Et le troisième, c'était la mesure des dégâts politiques possibles après, à l'issue de l'annonce de ces mesures.
Fermeture des écoles pour 4 semaines, réaction Jean Duménil, secrétaire général de la CPME. Pour vous, ça veut dire autant de salariés qui ne vont pas pouvoir venir à leur travail?
Oui, ça veut dire une situation beaucoup plus compliquée pour les entreprises, à la fois pour organiser les entreprises et puis pour les salariés eux-mêmes. Oui. Quand vous êtes en télétravail et que vous avez des salariés en bas âge avec vous, c'est extrêmement compliqué de continuer à travailler. Vous ne travaillez plus dans des conditions normales, oui. C'est fatigant pour les salariés. Puis vous êtes moins productif pour l'entreprise. Donc
les
ça,
enfants
évidemment...
en bas âge, vous avez dit salariés, c'est un lapsus, mais
oui,
on
les enfants, ben, excusez-moi, les enfants en bas âge. Vous voyez, la fatigue commence à me gagner moi aussi, c'est ça que j'allais dire.
C'est le choc des annonces. J'ai posé la même question à Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH. Qu'est-ce qui va être possible de mettre en place pour ajuster le travail à distance? On sait, Benoît Serre, depuis le premier confinement, au printemps dernier, ça avait duré quasiment deux mois, que c'est quasiment impossible de travailler dans de bonnes conditions avec... les enfants à la maison, pour qui on doit aussi assurer l'école, un minimum en tout cas.
Non, mais c'est sûr que si les décisions sont confirmées, ça en prend le chemin. D'une certaine manière, c'est la moins pire des solutions, parce qu'il y avait déjà, il y a au moins 2 semaines de vacances de printemps, donc on avait certains salariés qui avaient posé des vacances, donc ça, on le savait qu'ils ne seraient pas là. C'est sûr qu'on va être repassé dans un modèle dégradé de fonctionnement des entreprises, parce que même en télétravail, lorsque vous avez des enfants en bas âge, vous avez quand même une productivité qui baisse. Mais il y a un autre problème plus grave, c'est qu'on avait constaté au premier confinement que les salariés, souvent très engagés, en fait, commençaient à faire des horaires totalement délirants pour réussir à la fois à gérer leurs enfants et à gérer leur travail. Et ça, ça générait beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement, etc. Donc ça, c'est un souci. Et puis le dernier point quand même, c'est que tout ça va se poser sur des salariés épuisés et des entreprises qui ne sont pas en meilleure forme non plus, ce qui est la grande différence par rapport au mois de mars.
Et puis un élément important, Jean Duménil, c'est que les salariés vont pouvoir être mis en activité partielle. Ça, c'est une charge supplémentaire aussi pour les entreprises.
Oui, alors mis en activité partielle, sous réserve que leur activité ne soit pas télétravaillable et conciliable avec la garde d'enfants, parce que c'est ça le sujet. Or, aujourd'hui...
On parle de quel type d'activité, pour être tout à fait clair?
On parle par exemple de quelqu'un qui travaille dans une boulangerie ou de quelqu'un qui travaille chez un cordonnier, puisqu'ils sont encore ouverts, voilà, ce genre d'activité. Et le sujet qui va se poser assez rapidement, c'est le reste à charge pour les entreprises, puisque en principe, au 1er avril, le reste à charge devait augmenter pour les entreprises qui n'étaient pas dans les secteurs considérés comme fermés sur le plan administratif. Oui. Donc évidemment... il va falloir rétablir le reste à charge minimal qui est de 15%, sachant que 15%, ce n'est pas neutre pour une entreprise.
On peut imaginer que de nouvelles mesures de soutien seront annoncées dans les prochains jours pour compenser ce reste à charge de la part du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.
Probablement, ce qu'on aimerait, c'est que ça soit annoncé en même temps, d'ailleurs, en même temps que la mesure, l'aide qui va avec. Ça, c'est évidemment une chose qui est importante pour nous. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus l'entreprise est petite... plus, quand un salarié est absent de manière brutale sans qu'on connaisse exactement la durée, plus ça rend les choses compliquées dans l'organisation de l'entreprise. Il faut aussi bien avoir ça en tête.
Bien, une réaction courte avant une première pause. Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE, Fédération des parents d'élèves. Est-ce que vous êtes satisfait de ces annonces, si elles se confirment, de la fermeture anticipée des écoles?
Écoutez, nous...
Il y avait de l'inquiétude de la part des parents et des enseignants. Il y avait une inquiétude forte. D'ailleurs, on a vu que depuis la mise en place du nouveau protocole, c'est-à-dire un cas avéré dans une classe, la classe ferme. Ça s'est traduit par des centaines de fermetures de classes en quelques jours. Je crois qu'il y en a plus de 800 aujourd'hui, rien qu'à Paris.
On avait plus à l'échelle nationale, évidemment. Après, moi, je ne reviendrai pas parce que le moment d'aujourd'hui n'est plus à la polémique. À savoir, est-ce que la langue de bois du ministre qui ne veut pas dire qu'il veut fermer les écoles en disant on ferme classe après classe et on voit bien que dans certains territoires, quand on a cette méthode-là, on en vient à fermer les écoles. Ça, c'était hier. Oui. Aujourd'hui, nous, on attend une parole forte du président de la République parce qu'il y a une grande inquiétude. Il y a une grande inquiétude, évidemment, d'un point de vue scolaire pour les enfants.
Sur le suivi des enfants.
Absolument, parce que la question, ce n'est pas d'aller ou pas à l'école stricto sensu dans le bâti. La question, c'est comment on continue la scolarité des enfants, c'est-à-dire le rapport aux apprentissages, le rapport au savoir, le rapport aux connaissances. Et là-dessus, il n'y a pas de magie, comme pour vous, monsieur. Combien on va mettre sur la table pour que la scolarité continue? Et aujourd'hui, vous savez, l'école hybride, elle existe déjà. Les lycéens, par exemple, sont à moitié devant leur enseignant et à moitié à la maison. Et quand ils sont à la maison, ils sont livrés eux-mêmes. Donc, ils ont deux solutions. Soit les parents sont capables de les aider du point de vue de la scolarité ou alors de leur payer des cours particuliers. Soit ce n'est pas possible. Et dans ce cas-là, dans la deuxième situation, on organise les inégalités et on les augmente. Et donc là, il y a un vrai souci.
Ouais, est-ce que vous évoquez, pose le débat quand même sur le manque d'anticipation? C'est un sujet qui revient beaucoup. On en parlera dans quelques secondes. 19h27, on se retrouve avec nos invités. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Oui, le grand débat du Club des idées dans 30 minutes, l'allocution du président de la République. On suivra évidemment ensemble sur Europe 1. On est avec nos invités, on continue d'évoquer ces mesures et l'impact pour le quotidien des Français. Je me tourne vers vous maintenant, professeur Bertrand Guidet. Vous êtes chef du service de réanimation et de médecine intensive à l'hôpital Saint-Antoine. Si les mesures qu'on évoque depuis tout à l'heure se confirme. La fermeture des écoles au niveau national pour 4 semaines, limitation des déplacements, comme c'est le cas aujourd'hui dans 19 départements à l'ensemble du territoire. Est-ce que ce sont, sur un plan sanitaire évidemment, hein, vu de votre service et de votre hôpital, ce sont des mesures qui vont dans le bon sens?
Il y a deux choses. Il y a le délai de mise en œuvre des mesures et puis il y a les mesures elles-mêmes. Donc nous, on plaidait quand même pour des mesures plus précoces.
Et plus strict.
Et plus strict. Donc voilà. Donc parce qu'il faut savoir que le coût est parti pour les futures hospitalisations, et ce que l'on prévoit comme hospitalisation dans les 15 jours qui viennent vont se réaliser.
Oui.
Ça va se réaliser parce qu'effectivement.
Donc ça va continuer de grimper.
Donc ça va continuer de grimper. Nous, les projections, c'est qu'il faut qu'on organise l'hôpital, en tout cas en Île-de-France, pour doubler le nombre de malades qui vont être admis d'ici mi-avril.
C'est important ce que vous dites, parce que ça veut dire que la mise en place du confinement partiel dans les 19 départements, dont on est quasiment là à 15 jours de mise en place, ça n'a pas d'effet.
Ben, ça a eu un effet très modique sur le taux d'incidence, sur le taux de PCR positive, sur les admissions en réanimation. Et donc, donc il fallait un tour de vis supplémentaire, et nous demandions ça. Avec des tribunes qui ont été publiées.
Alors,
dans le
justement,
monde.
Je voudrais vous interviewer là-dessus, parce qu'il y avait Patrick Peloux tout à l'heure, médecin urgentiste à ce micro, qui a poussé un coup de gueule, contre l'alarmisme de certains médecins, avec un propos en substance qui est le suivant, qui est de dire « Aujourd'hui, c'est faux qu'on trie les patients, il ne faut pas dire ça, ceux qui disent ça ne sont pas sérieux, et on peut encore aujourd'hui pousser les murs. Oui, la situation est grave, mais ça n'est pas la bérésina », disait-il. Vous lui répondez ?
Non, mais absolument, il a raison. Donc, aujourd'hui, donc, pour donner quelques chiffres, le capacitaire de réanimation en Île-de-France, en temps normal, c'est 1100 lits.
Oui.
Actuellement, on est à peu près à 1500 malades Covid.
Oui.
Mais il y a les non-Covid.
Bien sûr.
Qu'il faut ajouter.
Le ministre de la Santé avait dit qu'il y aurait 12 000 lits de réanimation mobilisables.
Ça, c'est encore une autre question. Mais imaginez qu'on va passer donc de 1500 environ 3000 autour du 15 avril.
Oui.
Donc, effectivement, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la bérésina. Patrick Peloux a raison. Mais malheureusement, on doit continuer à pousser les murs, on doit continuer à ouvrir des unités supplémentaires, on y travaille, avec tous les facteurs limitants, en particulier le personnel compétent pour s'occuper de ces structures. Oui. Et la difficulté de l'exercice, c'est qu'on a une photographie à tenter. Et les effets des décisions qui sont prises 15 jours après. Et donc, effectivement, on pourrait dire, ben non, tout va bien. C'est comme quand on saute de la tour Eiffel, vous sautez au troisième étage et vous êtes au niveau du premier étage. Mais jusqu'à là, tout va bien.
Professeur, la question est la suivante. Est-ce qu'on a vraiment tout essayé? Est-ce qu'on essaie? Le président de la République a répété maintes fois, on est en guerre. Je cite un exemple, pardon d'y revenir systématiquement, je l'évoquais avec Patrick Peloux. Le Val-de-Grâce, il a été rénové il y a quelques temps. Certains disent qu'on pourrait réarmer le Val-de-Grâce et créer 50, 100 lits de réanimation supplémentaires.
Oui, le facteur limitant pour avoir des lits supplémentaires, c'est bien sûr les locaux, c'est un peu le matériel, mais c'est surtout le personnel. Oui. Et donc, effectivement, il faut former plus de médecins réanimateurs, il faut reconnaître la spécificité des infirmières qui travaillent en réanimation. Et ça, c'est un travail qu'il faut engager sur le moyen terme. Mais le facteur limitant, ce n'est pas les locaux.
Oui, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on est en train de former en accéléré des infirmières, des formations de 3 jours qui vont venir seconder les médecins réanimateurs,
mais
notamment.
C'est bien,
que je crois que pour une personne en réanimation, il faut deux infirmières ou deux infirmiers à temps plein. C'est à peu près ça, professeur.
Non. Les ratios, c'est une infirmière pour deux malades ou deux malades et demi. Mais quand vous voulez avoir une infirmière présente au lit du malade, eh bien, il faut que vous ayez dans vos effectifs 3 infirmières pour le tour du matin, de la journée, et pareil pour la nuit.
Oui.
Donc, en fait, pour avoir une infirmière présente dans un service de réanimation, il faut que dans vos effectifs, vous ayez 6 infirmières.
Jean-Yves Duménil.
Oui, simplement, la situation, vous l'évoquez parfaitement sur le plan sanitaire, et on comprend qu'on est dans une situation périlleuse. L'interrogation quand même qu'on peut avoir, c'est que maintenant, ça fait quasiment un an qu'il y a des professionnels qui ne travaillent pas.
Il y en a de plus en plus, puisque maintenant les commerçants non alimentaires sont fermés. Et finalement, on peut s'interroger sur l'utilité des fermetures telles qu'elles ont été prises quand on voit le résultat.
Oui.
Est-ce que ça a été efficace? Le résultat ne semble pas. Donc, est-ce que c'était les bonnes mesures? Est-ce qu'il faut aller plus loin? La réponse est sans doute non au vu de l'efficacité.
Oui, après, on peut se dire que la situation aurait peut-être empiré encore plus.
On peut toujours se le dire, mais on a quand même les restaurateurs, on a l'événementiel, oui. On a le sport, les commerces non alimentaires. Enfin, ça fait beaucoup de gens oui. qui ne travaillent pas depuis plusieurs mois.
Et puis, je rappelle qu'on est en couvre-feu quand même, on l'a un peu oublié depuis
aussi,
six mois maintenant.
Aussi.
Ça fait six mois qu'on est en couvre-feu à 18h et maintenant à 19h. Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE, est-ce que vous trouvez que dans tout ça, il y a eu un manque d'anticipation important, notamment pour votre secteur, en l'occurrence les écoles, y compris d'ailleurs pour la préparation. J'entendais un de vos confrères qui disait tout à l'heure sur une antenne concurrente, pourquoi n'a-t-on pas anticipé ce reconfinement en donnant des ordinateurs aux enfants, notamment les plus précaires, pour éviter le décrochage scolaire? C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Pourquoi n'a-t-on pas ouvert des gymnases pour assurer les cantines et éviter le mélange des élèves?
C'est comme pour l'hôpital, parce qu'il manque des moyens humains. C'est simple. Vous savez, tout ce que vous dites là, nous, on le soutient, c'est dans le protocole sanitaire du mois de juillet 2020. C'est-à-dire que d'utiliser les tiers-lieux, d'embaucher des enseignants supplémentaires, d'utiliser les parcs et jardins, tout ce dont vous parlez, c'est dans le protocole sanitaire de 2020. De donner des masques aux enfants, aux enseignants, c'est dans le protocole sanitaire. De se laver les mains plutôt que du gel hydroalcoolique, parce qu'aujourd'hui, les dermatologues nous le disent, ça abîme les mains des enfants. Ils voient dans leur consultation des gamins qui viennent abîmer avec le gel hydroalcoolique, oui. ou aussi avec les masques, avec la respiration, etc. Donc,
Pourquoi ça n'a pas été fait, selon vous?
Parce qu'il n'y a pas eu de budget. Pire, Jean-Michel Blanquer a rendu 200 millions d'euros à l'État sur son budget. Voilà, c'est ça la réalité. Donc moi, quand j'entends ce qui se passe à l'hôpital, c'est ce qui se passe à l'école. Quand vous avez un enseignant qui n'est pas présent parce qu'il est malade, parce qu'il n'a pas bien, parce qu'il a un décès dans sa famille et qu'il faut qu'il aille honorer la mémoire de ses parents, tout ça, c'est la vraie vie, et ben, il n'est pas remplacé. Donc qu'est-ce qui se passe? Surtout en maternelle et en primaire. Et ben, les enfants sont, quand les parents travaillent et qu'ils ne peuvent pas les garder à la maison, parce qu'il faut payer les factures à la fin du mois, et ça va se poser de plein fouet bientôt, et ben, on les met dans les autres classes. Donc on augmente mécaniquement le nombre d'élèves. La question d'augmenter mécaniquement, que les enfants soient porteurs, pas porteurs, moi je ne rentre pas dans ce débat-là, je ne suis pas épidémiologiste. Mais ce qui est sûr, c'est que le brassage social autour des écoles, lui, il est là. Donc si vous ne divisez pas les effectifs des écoles en mettant une moitié des enfants dans une école et l'autre moitié dans un tiers-lieu, une salle municipale, un gymnase, ce que vous voulez, il y a plein de solutions pour ça, et bien inévitablement, le brassage social qui est à l'école augmente mathématiquement le taux de Covid, etc. Et ça, vous avez des cas dramatiques comme à Sevran, à Drancy, partout, etc.
Avec un enjeu économique aussi, on en parlera dans quelques secondes de ces nouvelles mesures, parce que ça coûte cher aux finances de l'État aussi. 19h38, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h39, on est toujours ensemble, édition spéciale dans Europe Soir, évidemment, pour suivre l'allocution du président de la République avec des annonces très très importantes qui vont toucher notre quotidien. On l'évoquait avec vous, Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1, la fermeture a priori des écoles pour 4 semaines et un changement là encore de positionnement politique, de choix politique par rapport à la doctrine qu'avait mise en place le président de la République. C'est fini avec la régionalisation, le cas par cas qu'on avait évoqué maintenant depuis plusieurs semaines et ce qui était un choix du président et de l'exécutif. On revient à des mesures nationales.
Effectivement, et du coup, c'est un changement politique assez majeur et même un tournant, je pense, dans le quinquennat. On verra comment ce sera analysé dans les prochains mois. En tout cas, il y a deux totems qui étaient très importants pour Emmanuel Macron. C'était, souvenez-vous, pendant des semaines et des semaines, on disait qu'il ne fallait pas toucher à l'école. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, en avait parlé. Emmanuel Macron a rappelé plusieurs fois que vraiment, il fallait tout faire pour éviter de toucher à l'école. Donc là, manifestement, c'est ce qu'il va annoncer. Et puis la deuxième chose, c'est la question du confinement. Emmanuel Macron avait fait son pari de ne pas reconfiner le pays. Alors peut-être qu'il va l'habiller différemment, peut-être qu'il emploiera un autre mot. Mais clairement, en tout cas, pour tous les parents qui ont des enfants en âge d'aller à l'école, ce sera un confinement un peu à l'image de celui qu'on a connu en mars dernier. Donc c'est un peu retour à la case départ. Oui. Donc forcément, politiquement, il y a un impact très fort. Et je me souviens d'un conseiller du président qui me disait il y a quelques semaines, il n'y aura pas de troisième confinement parce que Emmanuel Macron est convaincu que s'il y a un troisième confinement, il est mort politiquement. Oui. Donc on verra comment tout ça sera interprété et analysé.
C'est tout de même un confinement qui ne dit pas son nom. On n'a pas le droit de sortir du département, on est limité dans ses déplacements, il y a un couvre-feu à partir de 19h et les écoles sont fermées. On n'est quand même pas loin du confinement parce qu'on ne peut pas non plus aller travailler quand on a des enfants. Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH, est d'ailleurs toujours avec nous. Benoît Serre, à partir de ce soir, 20h30, comment va se mettre en place cette organisation du télétravail pour les millions de salariés qui vont devoir s'adapter du jour au lendemain?
On va faire en fait les trucs en trois temps.
On a d'abord pré-identifié, parce qu'on a l'expérience maintenant, on connaît les collaborateurs qui ont des enfants en bas âge. Par conséquent, ceux qui sont, de toute façon, qui seront touchés dès lundi, ou selon la date à laquelle le président de la République déclenche les opérations, on saura que ceux-là, ils seront soit en arrêt de travail. Quand c'est une équipe complète, vous pouvez choisir le chômage partiel. Il faudra d'ailleurs suivre l'évolution du taux de chômage partiel dans les semaines qui viennent pour mesurer l'impact sur nos entreprises. Et puis, après, il y a des réorganisations d'équipes de manière à avoir des équipes A et des équipes B qui peuvent se relayer dans la semaine. Et dernière conséquence, on va commencer à mesurer l'impact sur la dégradation de l'activité, c'est-à-dire la baisse de production dans certains cas, etc. Oui. Et puis le dernier point, on va essayer de renvoyer encore plus de gens en télétravail qu'on en a déjà, notamment ceux qui ont des enfants en bas âge, mais pas que d'ailleurs.
Ça va coûter cher aux entreprises ?
Alors ça, on attend, c'était évoqué tout à l'heure à juste titre, on attend de savoir, ça me paraîtrait assez logique, en tout cas on le demande, que les dispositions qui avaient été mises en place pour le premier confinement et qui ont réduit en termes de remboursement et devaient encore réduire la semaine prochaine, devraient être annulées. Ça paraîtrait assez logique parce que il faut bien comprendre que vous avez des entreprises qui sont au bord du précipice et que 4 semaines de plus avec des coûts supplémentaires comme ceux que vous avez cités, les frais définitivement tomber dedans. Oui. Donc il y a un enjeu d'emploi très court terme à sauver. Donc j'imagine que ça va être reconduit, de même que j'imagine, je ne sais pas, hein, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'imagine que les différentes réformes, notamment je pense à l'assurance chômage, va devoir encore être décalée.
Oui.
Parce que va se poser le problème de ceux qui sont en fin de droit, enfin de toutes les situations qu'on a connues au premier confinement.
Oui.
Donc on attend, ça on ne le saura pas ce soir.
Qui était relancé avec une application d'ailleurs à la fin de l'été pour la réforme de l'assurance chômage, malgré l'opposition des partenaires sociaux, y compris d'ailleurs du MEDEF, et vous aussi d'ailleurs de la CPM, vous y étiez opposé.
Bien sûr, mais on y était opposé. On y était opposé d'abord parce que le moment ne nous paraît pas opportun, et puis parce que dans cette réforme, il y a ce qu'on appelle le bonus-malus sur les contrats courts. Et nous, on considère que dans la période actuelle, il vaut mieux travailler même en contrat court que de ne pas travailler, tout simplement.
Rodrigo Arenas.
Écoutez, moi, je suis très sensible à ce que disent les acteurs économiques parce que nous, on considère que l'école est la grande oubliée du plan de relance.
Oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peu ou rien sur cette question-là. Or, si on prend quelques chiffres, le premier employeur de France, ça reste l'éducation nationale avec ses 875 000 enseignants et son 1 million de salariés, c'est le premier employeur de France. Un lycée, vous savez, quand vous le construisez, ou un collège, c'est 25 millions d'euros.
Oui.
C'est 1 milliard de repas qui sont distribués en restauration collective. C'est-à-dire autant d'opportunités pour pouvoir relancer le pays autrement qu'en faisant ce qui ne fonctionnait pas avant, ou en tout cas de relancer une nouvelle idée. Donc aujourd'hui, mettre l'école au cœur de tout ça, ça fait partie de la relance. Et donc c'est au cœur des préoccupations. Et je suis désolé de le dire comme ça, mais le premier confinement, et je pense que vous me confirmerez, je pense cette question-là, parce que nous, les parents qui sont dans les emplois les plus précaires, ont été les premières victimes du confinement. C'est-à-dire que ça a été très difficile, et en particulier pour les femmes seules avec enfants. Donc cette question n'est pas qu'une question sociale, c'est aussi une question économique. C'est comment est-ce qu'on, avec la relance, avec ce qu'on va mettre en œuvre, ce que le président de la République veut mettre en œuvre, si on ne met pas les moyens, on risque d'avoir encore des sorties de route qui ne seront pas très efficaces pour la reprise du pays.
J'ajouterais un impact sanitaire, parce qu'au bout du bout, tout ça a un impact sanitaire quand même, sur les dépressions, sur...
C'est ça, la troisième vague. La troisième vague est déjà psychologique.
La quatrième vague
psychologique. Non, pas le troisième, parce que si vous voulez, sans vouloir vous contredire, c'est que c'était déjà ce qui était prévu, les pédopsychiatres à faire depuis longtemps. Et aujourd'hui, les Belges le disent. Il y a une tribune qui est sortie dans un journal de très grand tirage belge qui explique que les pédopsychiatres dans les hôpitaux psychiatriques font le tri entre les enfants qui arrivent, qui en situation de suicide, qui en situation de malnutrition, qui veulent plus s'alimenter. C'est-à-dire que le manque de perspective, le manque d'horizon a un impact sur la psychologie des enfants très dur. Et la France, malheureusement, n'est pas en dehors de ça.
Alors, point très important, dans quelques secondes, on verra si ces mesures peuvent vraiment, avec vous, professeur, on verra si ces mesures peuvent vraiment avoir un impact rapidement, quand même, sur la circulation du virus et nous permettre, avec la vaccination, on va en dire un mot aussi, de reprendre une vie à peu près normale. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
10 minutes maintenant avant l'allocution du président de la République, on sera donc fixé sur ces annonces très attendues par tous les Français, évidemment, édition spéciale sur Europe 1. Restez avec nous d'ailleurs, on commentera ces annonces avec nos invités juste après cette allocution. Je voudrais qu'on s'intéresse avec vous, professeur Bertrand Guidet, chef du service de réanimation et de médecine intensive à l'hôpital Saint-Antoine, à l'efficacité de ces mesures de fermeture d'école. D'abord, notre expert Victor Dolande du service Société d'Europe 1. Victor, est-ce que ces mesures, est-ce que la fermeture des écoles peut vraiment avoir un impact sur la circulation du virus ?
Alors Julien, ce qu'il faut comprendre, c'est que les contaminations à l'école reflètent aujourd'hui la circulation du virus dans tout le pays. Non, les enfants ne sont pas super propagateurs de l'épidémie, comme on l'a pu l'entendre ici ou là. Mais oui, il y a des contaminations à l'école, comme dans le reste des tranches d'âge. Je vous donne deux chiffres qui donnent quand même une tendance. Plus 31% de contamination en une semaine chez les moins de 14 ans et 3500 classes fermées dans tout le pays. Ce chiffre, c'est une certitude, il va fortement augmenter dans les prochains jours. Donc oui, très clairement, Julien, les contaminations sont en très nette augmentation dans les écoles parce qu'elles le sont également dans le reste de la population. Et je vous donne une confidence que m'a faite l'un des responsables de la Société française de pédiatrie ce matin. Ils ont toujours été opposés à la fermeture des écoles. Et ce matin, il m'a dit « c'est le moins mauvais moment pour le faire ». Comprenez, il y a des cas un peu partout et donc forcément aussi dans les écoles. Donc oui, il faut faire quelque chose.
Bien, professeur Bertrand Guy, des réactions. Parce que moi, je me suis nourri d'études depuis cette année de Covid pour faire mon métier de journaliste. J'ai reçu tout un tas de spécialistes qui me disaient depuis le début « non, les enfants ne propagent pas le virus ». On s'aperçoit que ça n'était pas vrai ?
Non, ils propagent peu. Le problème, ça dépend d'où on part. Si on part de 500 contaminations ou de 5000 ou de 50 000 contaminations, donc des taux d'incidence extrêmement variables, évidemment, c'est différent. Donc si vous rajoutez 20%, on va dire que globalement, c'est une augmentation du risque de 20 à 30%. Mais c'est relativement faible.
Bien, alors pourquoi ferme-t-on les écoles ?
C'est relativement faible en pourcentage, mais en valeur absolue, si vous parlez de 20 000 et que vous rajoutez 30%, ça devient très important. Le deuxième élément, c'est les opportunités de brassage. Oui. Parce qu'on on amène les enfants à l'école, on va les chercher, on discute entre parents, etc. Et donc, c'est l'ensemble des éléments qui concourent à augmenter la...
Professeur, est-ce qu'il n'y a pas une raison cachée ? Parce qu'on apprend que 43% des personnes contaminées disent qu'elles l'ont été par des collègues qui avaient des symptômes du Covid-19. Autrement dit, il y a un vecteur de contamination par le travail. Alors, pas directement par le travail, par les lieux là où on sociabilise au travail, et ouais, notamment la cantine. On en a beaucoup parlé. À ce moment-là, il faut être logique. Pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas les entreprises ?
Ah ben, je pense qu'il faudrait réfléchir à des mesures dans les cantines pour que les
Pardon,
gens...
Jean-Luc Dumilly, là.
La jambe sautée en l'air, là.
Je ne souhaite pas. Ça va être logique.
Mais à l'hôpital, moi, je parle de l'hôpital que je connais, il y a du personnel qui se contamine. Il se contamine plus entre eux au moment des pauses qu'au lit du malade, en faisant des soins. Parce qu'au lit du malade, évidemment, ils portent leur masque, ils font attention. Alors que... Mais alors après, le problème, c'est que les gens ont besoin de sociabilité, les gens ont besoin de parler entre eux, ont besoin même de vider leur sac quand ils ont une journée difficile.
Non, mais il y avait un peu de malice, Jean-Louis Dumesnil, dans ma question, mais vous comprenez, est-ce que cette fermeture des écoles, c'est pas un moyen caché de faire passer les salariés en total télétravail ?
La question peut se poser maintenant, est-ce que, par exemple, ça aurait du sens de fermer les écoles dans des zones où il n'y a quasiment pas de Covid ? On parlait de la Creuse tout à l'heure. Est-ce que ça a un intérêt de fermer les écoles dans la Creuse comme on va le faire à Paris, peut-être ?
Taux d'incidence, ça n'a pas 58 cas positifs pour 100 000 habitants. Voilà le taux d'incidence de la Creuse. On est à plus de 600 en Île-de-France. Est-ce que cette nationalisation des mesures, effectivement, ne va pas à rebours de ce qui avait été fait jusqu'à présent par le président de la République ? Vous avez d'ailleurs, Louis Dragnel, ça y est là, la structure de l'allocution d'Emmanuel Macron.
Oui, en fait, il y a à peu près 4 points que le président souhaite évoquer. D'abord, il va expliquer la stratégie qu'il a mise en place depuis 5-6 semaines maintenant, et qui n'a pas toujours été très claire, que les Français, en tout cas, ont du mal à comprendre. Ensuite, il fera un point sur la situation sanitaire pour expliquer un peu où on en est. Et puis, il annoncera ensuite les mesures qu'on a évoquées, qu'on a évoquées autour de cette table. Et puis enfin, il reviendra sur la question du soutien à l'économie, le fameux « quoi qu'il en coûte ». Il expliquera notamment que, bien évidemment, le dispositif d'aide à l'économie pour soutenir notamment les entreprises perdurera. Il y aura peut-être des petits ajustements. Voilà, en tout cas, c'est dans quelques minutes.
Est-ce qu'il faut se laver les mains ou pas ? Non, parce qu'il l'avait fait la dernière fois.
J'ose espérer, là, à titre personnel, non.
Je plaisante. Voilà. Je plaisante. Qu'est-ce que vous attendez, vous, Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE ? On est maintenant à 6 minutes de cette prise de parole. Qu'est-ce que vous attendez de cette allocution ?
Nous, on attend de la clarté. On attend les périmètres où ça va s'appliquer. Et on attend les moyens qui vont permettre la réalisation. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, les protocoles sanitaires en milieu scolaire, renforcés par renforcés, plan écarlate ou pas, ces appréciations qui ne m'appartiennent pas de juger, existent. Ils fonctionnent. Mais il n'y a pas les moyens pour les mettre en œuvre. Donc, il ne faut plus être dans les paroles. Il faut être dans les actes. Et moi, j'entends ce qui se dit, mais sur les enfants qui contaminent ou pas. effectivement, les tests se font sur l'élémentaire et la maternelle. Oui. Mais en collège et au lycée, il n'y a rien qui est fait. Or, on sait qu'aujourd'hui, les collégiens et notamment les lycéens sont porteurs.
Qui permettent de poursuivre le système éducatif en protégeant les enseignants, les parents et les élèves.
Il faut que la scolarité continue, ça c'est une évidence, mais il faut les moyens pour ça. Sinon, ça reste une incantation.
Jean-Yves Dumesnil, qu'attendez-vous? Peut-être un cap, des dates, un calendrier clair pour les entreprises que vous
Ce qu'on attend, c'est d'une part, s'il y a de nouvelles mesures de restriction, quelles sont les mesures de compensation? Il ne s'agit pas d'aide, mais de mesures de compensation qu'on mettra en face. Et ça serait bien qu'on l'annonce en même temps, la restriction et la compensation. Et puis, effectivement, un cap avec des dates de réouverture qui sont liées au calendrier vaccinal. À un moment donné, on demande des efforts aux Français, on demande des efforts aux entreprises. C'est logique que les pouvoirs publics s'engagent de leur côté et donnent des dates de réouverture.
Bien, vous restez avec nous encore quelques minutes. Dernière pause, 19h55, et on se retrouve pour l'allocution en direct du chef de l'État. À tout de suite.